ondes entre Loire et Loin, c'est le magazine du Gâtinais sur C2L. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous écouter. Une émission spéciale aujourd'hui, puisque comme nous vous l'avions annoncé la semaine dernière et puis sur les réseaux, l'émission d'aujourd'hui a été enregistrée mardi dernier, au Hangar, à Chalette-sur-Loing, à l'occasion de la Journée internationale pour la paix. Avec tout un tas d'invités, on retrouve cet enregistrement auquel certains d'entre vous ont peut-être d'ailleurs pu assister, avec tout un tas d'invités autour de Sandrine Manteau.
Bonsoir à tous. On est en ce moment au Hangar pour une nouvelle aventure d'entre Loire et Loing, grâce à Monsieur Pascal Weber qui a toujours de l'imagination et qui nous propose ce soir une émission. En direct, donc, ce qui veut dire que je dis bonjour à tous les spectateurs. C'est comme ça qu'on vous appelle ce soir, mesdames et messieurs. Merci d'être venus. J'espère que ça va pas trop tâtonner, évidemment, et qu'on va trouver ensemble le nom de cette nouvelle émission, puisque voilà, on n'y a même pas pensé. Par contre, on a pensé à inviter des gens fort divers. En fait, vraiment, l'idée, c'est de faire des rencontres et que tout le monde reparte en disant « Ah, mais vous, je vous connais maintenant, on se reverra, etc. » Vous avez été passionnants, parce que moi, je le sais, parce que j'ai demandé à toutes ces personnes de venir et je sais qu'elles sont toutes passionnantes. Alors, ce soir, on fête la Journée internationale de la paix. Et c'est pour ça que vous allez avoir un concert gratuit par la municipalité de Chalette-sur-Loing. On entend un petit peu la musique en ce moment. C'est un concert de Dobet Niaoré. Je crois qu'elle est guinéenne, cette jeune femme. Elle a été lauréate d'un Grammy et c'est l'un des talents les plus chauds et les plus appréciés d'Afrique, nous dit-on. Alors, en tout cas, elle est très belle et ce qu'on entend jusqu'à présent, c'est très, très bien. Donc, vous serez conviés. On va essayer de tenir vraiment les deux heures pour tous aller profiter de ce concert. Alors, on a fait cette émission donc sur le thème de la paix. Donc, les uns les autres, les invités, puis vous, peut-être dans le public, si vous avez quelque chose à dire sur ce thème de la paix, eh bien, on en parlera. Alors, sachez que cette Journée internationale de la paix, elle a 40 ans, justement. Voilà, on a d'ailleurs notre historien dans la salle, Jean-Louis Rizzo, qui fait « Oui, la dame, elle n'a pas dit de bêtises. » Elle a 40 ans, cette Journée internationale de la paix. Elle a été, créée par l'Assemblée générale de l'ONU. C'est une résolution de l'ONU. Que vous dire d'autre, c'est qu'elle ne doit pas être confondue, Monsieur Weber, avec la Journée mondiale de la paix, qui est une journée de prière. Tu vois, c'est pas pareil. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue à tous. Que dire, le thème 2001 de cette Journée internationale de la paix, c'est mieux se remettre pour un monde équitable et durable. Alors, je vous laisse réfléchir à ça. Ce que je sais depuis peu, c'est qu'elle a été célébrée à Chalette-sur-Loing. Elle est célébrée à Chalette-sur-Loing depuis 1997 et que le maire actuel, Franck de Maumont, fut vice-président de l'Association internationale des villes pour la paix. Alors moi, je me suis demandé s'il y avait d'autres villes dans le Montargois qui fêtaient cette journée internationale. Et vous me dites non, il n'y a que Chalette. Voilà. Alors, justement, est-ce que vous connaissez d'ailleurs les couleurs de la paix ? Quelles sont les couleurs de la paix ? C'est les couleurs de l'arc-en-ciel, voilà. Et tout de suite, ça me fait une transition vers un artiste qui va un petit peu être le fil rouge de cette soirée. On a malheureusement perdu un grand artiste hier soir. C'est Julos Bocarne, tout à fait. Qui avait toujours son pull couleur arc-en-ciel. Alors, Julos Bocarne, c'est un artiste hors norme, aux multiples talents. C'est un poète qui a chanté les poètes. C'est un auteur-compositeur qui a 39 albums à son actif et 500 chansons. Il faut que je fasse ça, voilà, plus près. Il a été également sculpteur, il a été comédien. C'était le chantre de la francophonie, mais également de la Wallonie. Et c'est un écologiste avant l'heure et pris de liberté. Il s'est éteint hier à l'âge de 85 ans. Moi, je trouve que s'éteindre la veille de cette journée internationale de la paix, ça m'a bouleversée d'autant plus. Alors, Julos Bocarne, on l'appelait, je vous le disais, le chantre de la Wallonie. D'aucuns aussi l'appelaient l'oiseau rare qui regardait la souffrance du monde en face. D'autres encore l'appelaient le Gilles Vigneault wallon. Moi, je le comparerais évidemment à Léo Ferré, avec une plus grande douceur tout de même dans le propos. Mais c'est vrai que comme Léo Ferré, il se disait anarchiste. Et j'invoquerais encore sans doute Mouloudji ou encore Anne Sylvestre. Alors, en 1975, Jules Bocarne avait vécu un crime atroce, celui de son épouse, Louise. Et cependant, ce qui est très beau, c'est qu'il n'a jamais vacillé sur ses bases humanistes. Et il a déclaré, suite à ce crime, c'est la société qui est malade, il nous faut la remettre d'aplomb et d'équerre par l'amour et l'amitié et la persuasion. Sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Je resterai sur le pont, je resterai un jardinier et je cultiverai mes plantes de langage. Et Jules Bocarne était connu aussi pour avoir dit cette phrase « Je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers ». Voilà. Alors, j'ai demandé à un ami musicien et chanteur de venir justement quand même fêter Bocarne ce soir. C'est Jocelyn Saviard. Alors Jocelyn, quand je lui ai proposé de venir au Déboté hier soir, il a dit mais c'est très simple, de toute façon Bocarne, il était dans mes cahiers de chansons quand j'étais jeune, il a ressorti ses cahiers de chansons. Alors Jocelyn, tu as choisi, je pense, l'un de ses plus grands succès qui date de 1969. C'est un poème
Un poème de Victor Hugo. Voilà.
Jules Bocarne, c'est vraiment le poète hugolien par excellence. Comme je vous le disais, à travers cette phrase, je pense de toutes mes forces qu'il faut s'aimer à tort et à travers. Comme Victor Hugo, lui, déclarait, vous voulez la paix, eh bien créez l'amour.
Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres, je marchais à pas distraits. Je parlais des fleurs, des arbres, son œil semblait dire après. La rosée offrait ses perles, le taillis ses parasols. J'allais, j'écoutais les merles, les roses, les rossignols. Moi 16 ans et l'air morose, elle vint, ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient roses. Et les merles me sifflaient. Rose droite sur ses hanches leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait fraîche et creuse sur la mousse de velours, et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands boisseaux. Soit n'y pensons plus, dit-elle. Soit n'y pensons plus, dit-elle. Depuis, j'y pense toujours.
Mais Jocelyn, il ne faut pas faire une tête grave comme ça, parce que c'est quand même l'amour qui est né au fond d'un bois. C'est joli. Puis je crois que cette jeune femme était tout à fait consciente de ce qu'elle choisissait. Alors donc, c'est un texte de Victor Hugo, mis en musique par Bocarne, quand bien même Victor Hugo disait tout le temps qu'il refusait que l'on mette de la musique au pied de ses vers. Bon, ben voilà. On va changer tout à fait de sujet et accueillir Jean-Louis Rizzo.
C'est des ailes.
Alors Jean-Louis Rizzo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire.
J'étais, oui.
Vous êtes spécialiste de l'histoire politique ?
De la France.
C'est ça ? Donc, en fait, j'ai bien fait de vous faire venir ?
Bien sûr. Pour ce sujet. Je suis très heureux d'être là. Oui.
Alors, pour ce qui est de l'actualité, l'actualité de Jean-Louis Rizzo à l'heure actuelle, c'est ce livre « De Gaulle, le gaullisme et la République ». On aura l'occasion d'en parler sur le divan d'Entre Loire et Loire un de ces jours, quand on retournera dans notre studio. Alors, pour aujourd'hui, vous avez accepté de faire cet exercice un petit peu particulier, de nous faire une histoire de la paix. Mais vous disiez que c'était compliqué de faire une histoire de la paix.
En effet, c'est très difficile. L'histoire de la Terre depuis des millénaires et surtout depuis un millénaire, c'est surtout une histoire, malheureusement, d'alternance, de conflits et de paix. Donc faire une histoire générale de la paix, on pourrait commencer à l'établir surtout à partir du XXe siècle, parce que là, les institutions internationales ont commencé à s'intéresser à la paix. Je rappelle que c'est Léon Bourgeois, un Français qui, au début du XXe siècle, a eu l'idée de la sécurité collective. Idée qui sera reprise par Wilson lors de la création de la SDN. Mais avant, il existe bien sûr quelques lois de la guerre, mais de dire qu'on pourrait établir une typologie des guerres et des paix serait très difficile.
D'accord. Rappelez-nous ce que c'est que la SDN, qui n'a pas marché, je crois.
Alors, la SDN n'a pas marché. La SDN, c'est la Société des Nations. Et elle est constituée donc à l'issue de la Première Guerre mondiale. Son objectif, c'est d'assurer la paix dans le monde, sans moyens d'ailleurs. Et alors, en 1928, les membres de la SDN vont signer un pacte avec lequel on peut être tous d'accord. C'est le pacte Briand-Kellogg. Briand, c'est le ministre français des Affaires étrangères. Kellogg, c'est le secrétaire d'État des États-Unis, évidemment. Et ce pacte, signé par tous les pays du monde, j'ai bien tous les pays du monde, déclare la guerre hors la loi pour l'avenir de l'humanité.
On est en
1928. En 1928. Trois ans plus tard, le Japon agresse la Chine pour s'emparer de la Mandchourie et le Japon crée un État croupion, un État fantoche, à ses bottes finalement, aux bottes du Japon. qui s'appelle le Manchukuo. Et la sanction de la SDN, car la SDN avait le droit de prendre des sanctions, la sanction de la SDN a été de ne pas reconnaître comme valides dans le monde les passeports émis par le nouvel État fantoche. Vous imaginez la crainte que ça a pu représenter pour le Japon. Et à partir de là, eh bien, effectivement, on peut dire que la SDN est allée de décrépitude en décrépitude. Chaque fois qu'elle condamnait un pays, le pays l'a quitté. C'est le cas de l'Allemagne en 1933. Elle n'a pas su régler l'affaire éthiopienne en 1935. Et donc, en 1939, elle fait faillite. Et c'est en même temps la faillite de la paix.
Bon, on fait un grand saut dans le temps. Est-ce que l'ONU va de décrépitude en décrépitude ?
Je ne dirais pas cela. L'ONU est née en 1945 et elle a essayé de corriger les défauts de la SDN. Elle a essayé de corriger les défauts de la SDN d'abord en créant, si vous voulez, des institutions chargées de sauvegarder la paix. Mais aujourd'hui, on a un problème. C'est la composition du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité ne représente plus les grands équilibres mondiaux. Nous vivons sur un Conseil de sécurité issu de 1945. C'est-à-dire que les cinq puissances qui disposent du droit de veto sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Mais le monde a changé. L'Allemagne et le Japon, par exemple, ne sont toujours pas considérés comme des puissances majeures. Et je ne vais pas parler du Brésil, de l'Inde, de toutes ces puissances qui émergent, de l'Afrique du Sud, qui n'ont pas le droit d'être représentés de manière permanente au Conseil de sécurité. Donc cette réforme du Conseil de sécurité, elle est urgente. Je ne dis pas qu'elle garantirait la paix universelle. La paix universelle, c'est bien plus délicat. Mais en tous les cas, le Conseil serait beaucoup plus représentatif. Mais les réformes de ce Conseil sont bloquées depuis 20 ans. La France, d'ailleurs, parfois contribue au blocage.
Donc vous nous dites que la paix, c'est une affaire de nation ? Plus qu'une affaire de citoyens ?
C'est aussi une affaire de citoyens, évidemment. Il faut bien aussi s'appuyer sur toutes les institutions, les associations. Mais malgré tout, ce sont encore les États qui déclarent la guerre. Hein. Ou qui ne la déclarent pas, puisqu'on ne déclare plus la guerre.
Donc depuis tout à l'heure aussi, vous mettez toujours face à face, ou du moins dans la balance, la paix, la guerre, la paix, la guerre. On ne peut pas réfléchir sur un concept de paix en dehors de réfléchir à ce qu'est la guerre.
On pourrait, mais c'est difficile. Hein. Aujourd'hui, depuis des siècles, on a alternance de paix et de guerre avec des durées plus ou moins longues de paix. Malheureusement, le XXe siècle n'est pas un siècle modèle pour la paix. Hein. Et pour l'instant, on ne peut pas établir de paix générale, paix universelle, c'est assez difficile. Il faut y arriver, mais regardez ce XXe siècle. Vous avez d'abord deux guerres mondiales. Vous avez ensuite la guerre froide. On me dira la guerre froide, d'accord, mais la guerre froide, elle est quand même composée de conflits localisés. Hein, de conflits localisés. Et la plupart de ces conflits s'inscrivent dans le contexte de guerre froide, à part peut-être la guerre des Malouines, en 82, qui n'a rien à voir avec le conflit Est-Ouest. Et puis, depuis, rappelez-vous, 1989-90, c'est le libéralisme qui triomphe, et donc c'est la paix pour les siècles des siècles. Eh bien, je dirais que ce n'est pas tout à fait ce que ça a donné. Hein.
Alors, je vous demandais tout à l'heure, on est d'accord, le concept de paix n'est pas une utopie. Et est-ce que c'est simplement un ensemble d'outils pragmatiques pour assurer la prospérité en fait économique et puis suite à ça sociale et culturelle de
malheureusement je sais que nous avons discuté un petit peu auparavant malheureusement pour l'instant ce ne sont que des outils pragmatiques on essaie de colmater les différents conflits par des trêves des paix effectivement je pense que l'humanité progresse quand même avec des secousses, mais elle progresse. Il existe quand même un droit international humanitaire qui justement a été mis en place par l'ONU, qui a repris notamment les idées de Rousseau. Jean-Jacques Rousseau disait que la guerre, ce n'était pas une guerre entre hommes, c'était une guerre entre États. Donc, c'était une guerre entre soldats, mais que les civils devaient être à l'écart. Alors, on en est loin, c'est vrai. mais le droit international humanitaire vise à les protéger. Hein. Et il y a quand même eu des efforts qui ont été réalisés sur ce plan, même si c'est vrai, par rapport aux guerres de certaines époques, on ne peut pas dire que la protection des civils ait toujours été assurée au XXe siècle. Mais il faut quand même faire un peu preuve d'optimisme. Je crois que les grands apôtres de la paix ont laissé des traces, hein, et ça va depuis Bourgeois brillant jusqu'à Barack Obama, jusqu'à Desmond Tutu, Mandela évidemment. Bon, et si vous voulez, tous ces gens ont œuvré pour la paix et il en reste quand même quelque chose. Il en reste quand même quelque chose malgré toutes les secousses, je le dis bien.
On finira sur cette question. Est-ce que De Gaulle était un fervent défenseur de la paix ou est-ce qu'il était encore dans l'esprit belliqueux de son temps?
Alors, la réponse est très claire. De Gaulle était partisan de la paix. Il faut lire tous ses discours des années 60. C'est une défense de la paix, notamment par rapport au bloc. Je rappelle aussi qu'il a d'ailleurs fait la paix en Algérie, hein, en 1962, contre même une partie de sa majorité. Contre une partie de sa majorité. Alors, bien sûr, il y a 1940, mais 1940, c'est un cas très particulier. Vous savez que de la Deuxième Guerre mondiale, on dit que c'est peut-être le seul conflit juste du XXe siècle. Je ne vais pas remonter à Thomas d'Aquin et son concept de guerre juste. Bon, mais en fait, la guerre juste, c'est une guerre qui défend une cause noble, hein, et qui essaie de respecter l'adversaire. Bon, alors, respecter l'adversaire, mais en tous les cas, la cause en 1939-40 était juste lorsque De Gaulle va à Londres à la fois pour protester et contre l'avancée allemande, contre l'armistice, contre le gouvernement de Vichy. On est là dans la défense d'un idéal. Mais dès que cette guerre a été terminée, De Gaulle s'est toujours posé, c'est vrai, en champion de la paix. Toujours. Et c'est ce qu'il explique. Rappelez-vous son fameux discours de Phnom Penh, cet excellent discours de Phnom Penh, je crois qu'il doit dater du 1er septembre 66, où il va à Phnom Penh, au Cambodge, ancienne colonie française, ancien protectorat français, si je veux être juste. Et on est aux portes du Vietnam. Et il dit aux Américains, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est vous en aller. Bon, on n'a pas apprécié à Washington, hein, mais là, on a vraiment une défense de la paix.
Bon, merci beaucoup, Jean-Louis Rizzo. Je vous ai offert un texte. Je vous ai soumis l'idée de nous dire un texte avant de nous quitter. C'est un texte de Jean de La Fontaine, puisqu'on fête les 400 ans de sa naissance. Et donc, ça nous parle de paix.
Oui.
Et vous avez bien apprécié ce texte.
Ce texte est très... Alors, j'aime bien Jean de La Fontaine, déjà. Jean de La Fontaine qui critique tous les mots MAUX de son temps, et notamment la guerre. Alors, je vais lire ce texte que je découvre à peu près. Ô paix, source de tout bien, viens enrichir cette terre et fais qu'il n'y reste rien des images de la guerre. Accorde à nos longs désirs de plus douces destinées. Ramène-nous les plaisirs absents depuis tant d'années. Étouffe tous ces travaux et leurs semences mortelles. Que les plus grands de nos maux soient les rigueurs de nos belles. Et que nous passions les jours étendus sur l'herbe tendre, prêts à compter nos amours à qui voudra les entendre.
Merci beaucoup. Merci Jean-Louis.
Tu te fous, les chefs d'État s'énervent le poil. La marque des poignets partout, ça part rien que de son nouvelle. C'est donc triste de constater qu'il n'y a pas eu d'évolution. On soit prêt à s'entretuer comme des hommes de Cro-Magnon. Mais chez nous, au Québec, il n'y a pas de guerre depuis des siècles. On n'aime pas ça se faire tuer, me semble que c'est pas compliqué. On a peut-être bien des défauts, mais on n'est pas des crackpots. On n'aime pas les chars d'assaut, pas plus que le bruit des bottes. Allons, résistons, mes frères, à la connerie des militaires dans notre village d'Astérix. Toujours été pognés dans des conflits militaires qui ne nous concernaient guère. À l'époque, c'est nos grands-pères qui ont subi la conscription. et qui ont traversé la mer pour servir de chair à canon. Mais moi je te dis qu'aujourd'hui, ils feront pas de moi un tueur. Pour le compte d'une patrie, j'aime mieux devenir déserteur. J'irai jamais une mitraillette, je serai jamais trois chars en boîte. Dans le fond d'une caserne, des forces armées canadiennes. Allons résistons mes frères à la connerie des militaires. Dans notre village d'Astérix, au nord de l'Amérique. J'ai un pays tranquille qui n'a jamais vu de missiles. Et c'est du temps qu'on se battait, c'était à coups de mousquet. S'ils veulent jouer au G.I. Joe avec des bonhommes vivants, moi je laisse faire les idiots et puis je sors mon drapeau blanc. Rien à foutre de l'armada et de la folie des chefs d'État. La guerre cesse pour les épais, moi ce que je veux c'est la sainte paix. Allons résistons mes frères.
Les plus gros classiques du hip-hop R&B sur C2L Radio dans Hip-Hop sur Loin. Retrouvez-nous tous les vendredis de 21h à 22h, tous les mardis de 23h à minuit pour une sélection 100% old school en compagnie de Johan et Younes. Le meilleur des années cultes du hip-hop à ne surtout pas manquer sur C2L Radio.
Tiens, le 9 octobre, c'est le retour du label Trempe au Hangar à Chalette.
Ah oui, j'ai vu leur Facebook, tu te rends compte? 10 ans déjà?
Oui, et pour leur anniversaire, ils ont vu les choses en grand. Un concert exceptionnel avec les groupes Skawax et West.
Skawax? Oh, ils avaient mis le feu lors de leur victoire au tremplin il y a quelques années.
Et West, c'est génial avec leurs différentes entreprises de U2, Lenny Kravitz, Muse, Radiohead, Ed Sheeran et plein d'autres.
Et puis, comme d'habitude, c'est gratuit. Pense à valider ton pass sanitaire pour la soirée.
Label Trempe, 10 ans déjà. Concert gratuit le 9 octobre à 20h30 au Hangar de Chalette-sur-Loing. 5 rue de la Forêt, entrée gratuite, restauration sur place, passe sanitaire obligatoire. En partenariat avec Just Drums, JPL Artiste, La Fracama, Studio Emergence, Plus de Bière, Au Terroir, Méga FM, l'agglomération Montargoise, Chaque Sécurité, Imprimerie Le Loup, Crédit Mutuel, C2L et la ville de Chalette.
C2L Radio. Écoutez.
Alors, on avait envie dans cette émission que tous les arts, peut-être pas tous les arts, mais plusieurs arts différents soient représentés. Et j'ai eu très envie d'inviter une artiste qui me paraît très bien convenir sur ce thème de la paix. C'est Natacha Mandon. Voilà, viens nous rejoindre, Natacha. Alors, Natacha Mandon, elle est artiste plasticienne et verrier d'art à la Selle sur le Biais. Alors, si vous aviez tenté de venir la voir dans son atelier et dans sa galerie à la Selle sur le Biais ce week-end, eh bien, vous auriez été au milieu de la foule parce que Natacha et Eric, son mari, ont été agréablement surpris de se retrouver au milieu de 150 personnes environ, c'est ça, sur le week-end. Alors vas-y, tu peux prendre le micro. C'était bien,
merci,
bravo.
Merci Sandrine de nous avoir invités. Effectivement, on était très surpris parce que ces journées du patrimoine ont une coloration particulière parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu du public et il y a eu vraiment un engouement et une demande de venir admirer, toucher, découvrir. Et plus petite visiteuse avait 3 mois. Le plus âgé, évidemment, j'en parlerai pas. Mais effectivement, beaucoup, beaucoup de personnes avides d'apprendre et curieux.
Alors, voilà. Pour parler davantage du travail de Natacha Mandon, elle est verrière d'art, elle travaille pour Dôme. Donc, de nombreuses pièces sont après commercialisées par Dôme. Donc, c'est un travail de verre qui est extrêmement virtuose, qui est compliqué. Et donc, c'est pour ça, quand elle dit que les gens venaient toucher le verre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et donc, je t'ai demandé, Natacha, de nous trouver, de nous choisir une œuvre qui, selon toi, correspondait bien à ce concept de paix.
Effectivement, j'ai choisi cette arche de Noé que j'ai conçue pendant le confinement. Et ça m'a vraiment aidée justement à chercher déjà la paix pour soi, parce qu'on était tellement bousculés dans nos, dans nos limites, dans nos peurs, dans nos angoisses. Et du coup, cette arche de Noé, c'est l'arche après le déconfinement, donc après ce cataclysme qui nous a tous touchés, en fait, j'ai essayé de trouver une composition qui permettait aux animaux qui représentent chacun de nous, hein, selon les différentes formes, comment est-ce que pourrait se passer ce déconfinement. Et du coup, il y a cet arc-en-ciel dont vous avez parlé justement tout à l'heure avec le symbole de la paix. Qu'est-ce que c'est que cette paix a inventé ? Et en tant qu'artiste, j'ai vraiment cherché quelque chose. Il y a 50 couples d'animaux.
50 couples,
oui,
d'animaux.
Du plus petit au plus grand, de la libellule au Non, pas aux dinosaures. Non, j'ai failli les mettre, mais non. Mais j'ai mis les licornes.
Ah oui, t'as mis les licornes.
Voilà, j'ai mis les licornes, qui n'existent pas, bien sûr, mais pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on peut inventer ? Qu'est-ce que c'est cet équilibre où, justement, chacun retrouve sa place, retrouve son pré... la nature. Qu'est-ce qu'on pourrait... Il y a une joie. Il y a une joie, en tout cas, dans cette création.
Mais c'est ce qu'on retrouve dans dans tes œuvres, de toute façon. C'est la joie dans le couple, c'est l'harmonie.
Oui.
C'est le choix de la finesse, le choix du détail, de l'élégance aussi.
Oui,
c'est ça.
Merci.
Oui. Le jeu avec la lumière.
Voilà,
également.
J'essaie de parler de l'amour aussi, oui. L'amour entre les animaux, l'amour entre les personnes. Et les êtres humains font partie de cette arche, mais ils sont vraiment sur le bord, je ne sais pas si tu vois. Voilà.
Ils sont là, hein.
ils sont là et ils contemplent, de chiens.
Un couple de chiens,
voilà. C'est le fidèle ami de l'homme. Et en fait, ils ne sont pas intrusifs, mais ils contemplent la création qui va se remettre à vivre.
Eh bien, je te remercie, Natacha.
Merci beaucoup.
Vous pouvez, je vous invite à aller voir cette galerie d'art qui est absolument magique.
Nous sommes ouverts justement dans ce petit village qui est vraiment vivant. Et c'est important pour nous de faire partie d'être dans le quotidien des personnes. Tout le monde peut venir simplement et rentrer, découvrir notre travail, notre savoir-faire.
Voilà, et l'affluence qu'il y a eu ce week-end à la Celle-sur-le-Biais pour aller chez Natacha Mandon et Éric Pierre prouve vraiment que la culture et que l'art est également un facteur de dynamisation des villages et de valorisation, et puis simplement de dynamise aussi l'économie, puisque les gens sont allés, je crois, déjeuner
à côté,
et c'est très bon
au restaurant,
à côté de chez toi.
Voilà.
Natacha, est-ce que
Merci
tu voudrais
beaucoup.
Bien finir
oui.
avec ce petit texte de Julos Bocard, encore une fois.
Oui. Croyez en l'extase des nuages qui traversent les grands horizons, au petit vent du soir, au cœur de l'été chaud. Croyez en la douceur d'une amitié, d'un amour, à la main qui serre votre main. Car demain, vous n'y pensez pas, demain éclateront peut-être les nuages et l'orage emportera vos amours. Tenez-vous serrés, ne vous endormez pas sur un reproche non formulé. Endormez-vous réconciliés, vivez le peu que vous vivez dans la clarté. C'est ma grand-mère qui disait ça aussi. Il ne faut pas dormir en étant fâché avec quelqu'un.
Ah ben c'est formidable. Alors écoute, encore une fois,
voilà.
C'est bien choisi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Natacha.
Merci.
Durant cette soirée consacrée à la Journée internationale de la paix, évidemment, l'incontournable, et avec grand plaisir, c'était d'inviter l'association France-Palestine, Christine Lander. Christine, d'ailleurs, merci, c'est toi tout à l'heure qui a répondu à la question piège. Quelles sont les couleurs de la paix ?
Non, juste pour vous dire que j'ai été élue à la ville de Chalette pendant quand même un certain nombre d'années et je m'occupais de la culture de paix.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc c'est vrai que
c'était un département qui s'appelait ainsi.
Culture de paix.
Et qui a changé de nom et c'est beaucoup moins bien maintenant. C'est solidarité, machin chose.
Non, c'est que je suis plus élue et cette association, ça s'appelle Association France-Palestine Solidarité.
D'accord. Alors écoute, tu m'as dit que tu allais nous faire un petit historique que tu as appelé Israël-Palestine. La paix impossible, point d'interrogation.
Voilà. Alors, c'est vrai que je ne suis pas comme M. Rizzo, je ne suis pas professeur, donc j'ai des anti-sèches pour toutes les dates. Non, c'est vrai que c'est Israël-Palestine, la paix impossible. Il faut dire que ça a commencé donc quand même il y a 70 ans avec le plan de partage de l'ONU. Donc, on a parlé de l'ONU tout à l'heure. Le plan de partage de l'ONU où la paix semble vraiment inaccessible maintenant en ce moment entre Israël et Palestine. Il y a la colonisation, donc tout le monde connaît la colonisation donc en Cisjordanie. Ça fait 74 ans exactement qu'ils sont colonisés. Il y a des décisions historiques dernièrement, tout le monde a entendu parler, la décision de Donald Trump, son xème processus de paix qu'ils ont voulu faire, c'est-à-dire de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, qui a suscité bien sûr la colère des Palestiniens. Et surtout, il s'apprêtait à refaire un partage du territoire en reprenant en fait les frontières d'avant la guerre des six jours. Ça veut dire de nouveau diminuer de presque 50% le territoire auquel les Palestiniens auraient le droit. Donc c'est vrai que ce huitième demande de processus de paix a été bien sûr suscité la colère des Palestiniens et qui a presque appelé à une nouvelle intifada. Parce que c'est vrai que c'était inacceptable de la part des Palestiniens d'entendre ce type de discours. Alors c'est vrai que cette histoire de la Palestine, elle est très compliquée, parce que ça date bien avant l'arrivée des Juifs qui ont été victimes de la Shoah. Ça date de 1917 avec la déclaration de Balfour. Bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire parce que c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que cette déclaration de Balfour en 1917 qui a décidé le mouvement sioniste de créer un foyer national pour le peuple juif. Donc, c'est pour ça que c'est vieux quand même, cette histoire de décision reprendre Israël. Ensuite, il y a eu plusieurs moments historiques assez difficiles, à savoir qu'en 22, la Société des Nations, donc la SDN, qui a attribué le mandat sur la Palestine aux Anglais, et c'est les Anglais qui ont décidé de faire ce plan de partage en deux États. Alors, ce plan de partage, c'est-à-dire qu'il y avait un État qui était composé d'environ 56% du territoire qui devait être donné comme État juif, 56% du territoire, avec environ 905 000 personnes qui pouvaient s'installer sur ce territoire. Ensuite, un État arabe, seulement de 43% de ce territoire, avec plus de 735 000 Palestiniens. Et enfin, le reste qui restait, c'était Jérusalem. Jérusalem, qui allait être partagée entre les deux.
Alors évidemment, la date phare, c'est 1947.
La Nakba ?
Ah non, c'est la date phare.
La date phare, ah bon ? Oui, parce qu'on va parler de la Nakba après. La date phare, oui, la date phare, c'est 1917.
Non, 47.
Non, il y a eu d'abord 17. Oui. 47, c'est le plan de partage. Oui. Non, 17, c'est le pire des choses. Ensuite, 47. Et puis après, il y a eu plusieurs guerres. Il y a eu 3 ou 4 guerres israélo-arabes, je ne vais pas toutes les nommer, mais c'est surtout la Nakba qui est aussi intéressante, c'est 47. La Nakba, c'est au moment où les Palestiniens ont dû quitter leur maison, leur village, pour laisser la place aux Juifs. Alors on dit qu'ils sont partis, non, ils ne sont pas partis. On les a expulsés de leur maison et de leur territoire. 80% de la population palestine a quitté le village. Et c'est ce qu'on appelle la Nakba, qui est la catastrophe, ça s'appelle. C'est la traduction, c'est la catastrophe. Et donc, 800 000 Palestiniens ont pris le chemin de l'exil et sont allés se réfugier. Alors, certains au Liban, en Syrie, en Jordanie, d'autres sur le territoire qu'on attribuait aux Palestiniens. Et après, il y a eu toute les autres Palestiniens qui sont partis dans les pays étrangers, comme beaucoup au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc.
Vous vous rendez souvent là-bas? Comment ça se passe?
Oui.
Il y a des membres de l'association?
Alors, c'est vrai que moi, la première fois que j'y suis allée en Palestine, c'était en 2007, c'est au moment de ma retraite. J'ai décidé d'aller en Palestine et ça a été le choc. Ça a été le choc, même si je sais que de par le monde, il y a d'autres événements dramatiques, ça je le nie pas, hein. Il y a plein de choses qui se passent de partout, de par le monde. Mais ce que j'ai découvert en Palestine, parce que ça faisait longtemps que je militais pour la Palestine, hein, depuis les années 70, mais par des conférences, des lectures de livres, etc. Mais d'être allée sur place en Palestine, pour moi, ça a été le choc de voir que 70 ans après avoir été sortie, exilée, il existe toujours une soixantaine, ce qu'on appelle une soixantaine de camps de réfugiés. C'est-à-dire qu'il y a des réfugiés, c'est ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est qu'il y a des réfugiés palestiniens qui sont réfugiés sur leur propre territoire. Il y a des camps de réfugiés palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, comme il y en a aussi, il y en avait en Syrie, qui ont été détruits malheureusement après la guerre. Il y en a en Jordanie et au Liban. Mais c'est des Palestiniens qui restent 70 ans toujours après, qui restent réfugiés. À savoir, c'est les grands-parents qui sont partis, mais ils se sont installés dans des camps de réfugiés. Ils sont soutenus par l'ONU dans le cadre de l'UNRWA, qui est un département de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens. Maintenant, on en est presque à la troisième ou quatrième génération. Ils sont toujours réfugiés.
Que fait l'association pour...
Et donc, nous, l'association, on a plusieurs objectifs. Entre autres, moi, un des premiers objectifs que j'ai pris après cette visite, c'est d'amener des gens sur place. C'est-à-dire que chaque année, depuis 2007, j'organise ce qu'on appelle des missions. Il y en a quelques-unes qui sont là. 4, 5, 6, 7, une fois on a été 10 personnes. On fait des missions de 15 jours. Et je les amène rendre visite aux familles palestiniennes. On va dans les camps de réfugiés, on rencontre des comités de femmes, on va dans des universités. Enfin, on essaie, en fonction des gens qui viennent avec moi, j'essaye de trouver les lieux où on y va. Ça, c'est un des objectifs. Le deuxième objectif, c'est ensuite de faire connaître, quand on revient, on fait connaître la situation des Palestiniens. C'est-à-dire qu'on témoigne de tout ce qu'on a pu observer sur place. Et un autre objectif qu'on a, c'est qu'on tient des stands d'artisanat palestinien. À chaque fois qu'il y a une fête, un événement, on a un stand où on vend des produits palestiniens parce que c'est très important pour eux, pour l'économie, que partout en France, des groupes vendent de leurs produits, à savoir, le premier que tout le monde connaît, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, maintenant, on a la bière de Taïbé, il y a le zaatar, mais il y a de la broderie, il y a des bijoux.
Le zaatar, c'est formidable.
Oui.
Vous connaissez le zaatar?
Oui.
Une épice qu'on met partout, devient la meilleure cuisinière du monde.
Ouais. C'est un mélange d'épices, c'est excellent. Le zaatar avec l'huile d'olive, c'est excellent. Et ça permet aussi donc à l'association d'avoir des finances, parce qu'un autre de nos objectifs, c'est qu'on finance les études de jeunes filles palestiniennes qui font des études à l'université de Beer Site, qui est à côté de Ramallah, parce qu'on s'est aperçu lors des voyages qu'on a pu faire que les études sont très chères, extrêmement chères. Les étudiants, les études fonctionnent un peu comme sur les États-Unis, à savoir que les personnes doivent payer le semestre. Et s'ils payent, ils peuvent aller en cours. S'ils ne payent pas, ils ne peuvent pas aller en cours. Et souvent, le semestre est très, très cher. Les étudiantes pour lesquelles on paye actuellement, ce sont des étudiantes on a eu en finance, en comptabilité. Actuellement, on a une infirmière. On a financé aussi une qui a travaillé dans les médias, journalisme. D'ailleurs, je lui ai dit qu'un jour, il fallait qu'elle vienne à Chalette. Et c'est 1500 le semestre, 1500 euros. Donc, c'est presque impossible pour les familles de payer ça. Donc, nous, tous nos bénéfices de nos ventes et des dons qu'on peut recevoir permettent de financer les études de ces jeunes filles.
Bon, je vous remercie beaucoup, Christine.
Voilà.
On essaie de voir avec le timing. Je suppose que Pascal Weber vous fait passer les coordonnées de l'association. C'est bien ça?
Je vais juste terminer par un petit texte, puisque vous avez lu des textes.
Merci beaucoup.
Voilà,
c'est super.
J'avais lu des textes et j'aimerais bien lire un texte de Mahmoud Darwish, qui est quand même le poète le plus connu quand même de Palestine, qui est malheureusement maintenant décédé. Et là, ça c'est un poème qu'on clame partout où on passe. Ça s'appelle l'espoir. Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir, espoir de libération et d'indépendance. Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros ni victimes. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école. espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant dans un hôpital et pas à un enfant mort devant un poste de contrôle militaire. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom original, terre d'amour et de paix. Voilà.
C'est très beau. Merci, Christine. Alors, mais Christine, j'avais noté une petite chose. C'est que, étrangement, le salam arabe et le shalom juif...
Je l'ai sur mon...
C'est ça ? C'est voilà. Superbe. Tout comme le shanti indien, d'ailleurs, sont des mots pour exprimer la paix. Et qui, contrairement à notre Pax, à nous, qui est très militaire, en fait, eh bien, tous ces mots induisent l'harmonie, la convivialité et l'amitié entre les uns et les autres. Donc, c'est peut-être la graine d'espoir qu'il y a.
Salam en arabe, shalom.
Salam en arabe et shalom en hébreu.
Il est très beau, ce... Oui. Voilà. On peut l'acheter, celui-là ?
Je pense qu'on a l'association, on en a eu. Je ne sais pas si
il
nous
en retrouver
reste.
Encore.
Oui.
Merci beaucoup.
Pas de quoi.
C'est deux ailes.
Giving him a fresh air full of the winter, and I won't be found in the shadows hiding sorrow. And I can wait for fate to bring around to me any part of my tomorrow. Cause it's all. Yesterday, when my plans were giggled in line, I had a son while on the run, and his love brought a tear to my eye. And maybe someday he will up and say that I'm a pretty nice guy. Oh my, and it's all.
Le meilleur du reggae music, c'est dans le Pouli Top Show avec Selecta Fayagong. Deux heures de reggae, ragga, dancehall non-stop. Can't stop the fire.
Pouli Top Radio Show.
C2L Radio.
C2L, plus près de chez vous.
Voilà, alors je suis en train de vous brandir un dessin que je trouve particulièrement... rigolo et grinçant, c'est un dessin que l'on doit d'actualité, que l'on doit à un dessinateur de bande dessinée qui se trouve chez nous et qui se trouve même dans le même village que Natacha Mondon à La Selle sur le Biais. Il se nomme Richie. Alors, je vais vous passer le dessin là, à vous tous, Hein, on va vous le faire passer. Ce dessin, en fait, met le doigt sur un drôle de phénomène. Aujourd'hui même, Journée internationale de la paix, eh bien, c'est également la Journée mondiale d'Alzheimer. Alors, voilà. Et alors, Richie nous marque « Simple coïncidence ». Et en dessous, vous avez tous les responsables de l'ONU en train de dormir, en train d'oublier donc leur rôle qui est de défendre la paix. Alors, je vais vous donner quelques petits renseignements sur Richie, parce que Richie, en fait, bonjour à toi. On ne se connaît pas, mais on s'apprécie déjà, puisque tu étais ce week-end au Salon du Livre du Hérisson, et c'est là que tu as rencontré tous les copains du collectif Territoire d'écriture. Voilà, et tu as dit que tu allais en faire partie, donc c'est super. Donc, Richie, alias Richard Razamouel, tu m'en voudras pas. Hein. Voilà, à la base, Richie était concepteur-rédacteur en communication. Il l'a été pendant 25 ans. Dessinateur humoristique pour la presse d'entreprise. Il consacre désormais la plus grande partie de son travail à cette seconde activité. Et alors, il s'est déjà, Natacha, en fait, il s'est installé depuis 2014 à la Selle sur le Biais. Et comment ça, nous, les plus grandes commères du secteur, on ne le sait pas? C'est incroyable. Voilà, afin de profiter pleinement du calme et de la nature qu'offre cette belle région qu'il affectionne. C'est beau ça quand même. Hein, alors moi, du coup, cette histoire d'Alzheimer mêlée à la Journée internationale de la paix, ça m'a inspiré un petit texte. Voilà, ce petit texte, je vous le donne comme ça rapidement. La Journée de la paix. Mais de quoi tu parles ? La journée de la paix, tu parles, Charles. Était-ce pour la paix ou bien pour la guerre que t'avais la Gaule ? Était-ce pour la guerre ou bien pour la paix de ta jolie Gaule ? La journée de la paix ? Hein, de quoi tu parles ? La journée de la paix, tu parles, Charles. T'y croyais sans doute, mieux que ces fans de foot, tous des Alzheimer, de la guerre et de la peur, bientôt... Heil, Zemmour, qui vendrait leur mère, c'est bien trop amer pour être de l'humour. La journée de la paix, la journée qui perd, la mer moire au fond des armoires. La journée de la paix qui coûte si cher aux rouges et aux jaunes, aux noirs et aux verts. Ajournez la paix, on verra plus tard. Ça n'a rien de gai, tout juste ringard, bon pour les tocards. La journée la paix, putain, sur le trottoir. La journée qui paie ? Pauvre con, c'est gratos. Ferme ton clapet et ronge ton os. Le jour ne perd rien pour attendre, mon petit pépère. Suffit d'être tendre. Si en ce jour de paix, chérie, je t'attrapais, ouvre tes chakras, t'es bien trop cracra. Ouvre grand tes bras, la journée de la paix. T'es prêt ? Me voilà. Alors, bonjour femmes solidaires. Femmes solidaires, on est avec Toinette et Annick qui viennent nous parler de leur association, me la faire découvrir, même si j'ai vu un très beau reportage dernièrement sur ces deux ailes. Je fais un petit clin d'œil parce qu'il y a notre journaliste là qui nous aide aujourd'hui. Et puis, Toinette et Annick, j'attendais de vous rencontrer. Est-ce que c'est légitime cette question que je me pose ? La paix des hommes est-elle la paix des femmes ? Je n'ai pas l'impression.
Bon, alors, avant de répondre, bon, je vais quand même présenter Femmes Solidaires, voilà. Malgré tout. Donc, Femmes Solidaires, c'est une association nationale composée de 190 comités locaux. Et notre mouvement, c'est un mouvement qui est féministe, qui est un mouvement d'éducation populaire, qui défend les valeurs fondamentales de laïcité, de mixité, et dans les objectifs, il y a effectivement la paix. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'on défend l'égalité femmes-hommes, quel que soit le pays, et y compris dans le monde. Et notre association, notre mouvement, est avant tout universaliste. Et puisqu'on est aujourd'hui la Journée internationale de la paix, on peut quand même préciser que Femmes solidaires a un statut consultatif aux Nations unies. Et qu'à chaque fois, on participe à des conférences mondiales, on va dire, sur les droits des femmes. Et le sens des travaux, c'est avant tout de donner une norme internationale, on va dire, de reconnaissance des droits fondamentaux des femmes et des filles, et que ces droits fondamentaux protègent à travers le monde et dans tous les pays. Et on sait qu'à l'heure actuelle, et Toinette va en parler, que les droits des femmes et des filles sont quand même en danger partout dans le monde. Et ça, c'est important. Et que les femmes et les filles, où qu'elles naissent, doivent être indépendantes, connaître l'égalité femmes-hommes, en dehors des contextes politiques, sociaux, économiques, voire religieux. Et notre association, on y tient, notre mouvement est universaliste et défend les droits à travers le monde, et on a des actions à travers la planète dans certains pays pour que les femmes aient ces droits.
Oui, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les femmes, dans tout contexte de conflit et de guerre, les femmes sont les premières cibles. Elles sont y compris utilisées comme armes de guerre, et qu'il est important aujourd'hui de se battre à l'universalisme pour les protéger. Rappelons que en temps de guerre, les femmes sont enlevées, sont violées, sont torturées, et quand elles reviennent dans leur village, elles sont bannies parce qu'elles sont impures. Et que on le dénonce, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Femmes solidaires se bat pour la paix. On sait que la paix, c'est aussi un contexte qui désigne un état de calme et de tranquillité, et que les femmes ne peuvent pas être en état de paix, en état de calme et de tranquillité, quand on ne leur reconnaît pas des droits. Donc, Femmes solidaires refusent toutes les assignations sociales, culturelles et religieuses, et notre combat est de faire respecter ces droits, et qui sont pour nous des droits fondamentaux. C'est les droits à l'éducation, à la santé, à avoir un logement digne, un travail décent, à pouvoir se déplacer, sortir comme bon leur semble, à ne subir aucune violence sous aucun prétexte, et à décider de sa contraception, à s'investir, à être élu, etc. Et je parlais tout à l'heure du droit à choisir sa religion. Pour nous, c'est important, notre combat pour la laïcité. Nous respectons toutes les religions, mais nous disons aussi stop quand une religion cherche à dicter les droits civiques, et notamment les droits civiques des femmes. Donc aujourd'hui, on a le contexte de l'Afghanistan qui nous tient beaucoup à cœur, où tous les droits que les femmes avait acquis pendant ces 20 ans de présence d'armées étrangères dans le pays, sont remis en cause. Les jeunes filles qui aujourd'hui ont 20 ans n'ont pas connu le port du voile, voire pire, le hijab, etc. Bon. elles ont eu une éducation occidentale et on admire le courage qu'elles ont aujourd'hui à revendiquer leurs droits, visage nu, tête nue. Et nous les soutenons et demandons à ce que la France accueille toutes les femmes afghanes qui demanderaient à être protégées. Pour nous aussi, la laïcité, c'est quelque chose d'important parce que depuis la nuit des temps, je ne sais pas, M. Rizzo en a peut-être parlé, mais les religions ont toujours été source de conflits. Hein, où que l'on remonte, depuis les guerres de religion, les conflits, même la guerre palestine-israélienne, c'est la religion qui divise les peuples et les femmes en sont les premières victimes. Peut-être qu'Annick, tu vas parler de notre implication dans l'ICAN.
Oui, puisque on est là aussi la Journée internationale pour la paix, on peut rappeler que Femmes Solidaires fait partie de la campagne ICAN. Donc, je vais vous le dire en français et non pas en anglais. Cette campagne ICAN, c'est la campagne internationale pour abolir les armes nucléaires. Et ça, c'est important en cette journée d'en parler. On exige, Femmes Solidaires en tant que membre de l'ICAN, exige la dissolution de l'OTAN. On exige l'abolition des armes nucléaires en conformité avec les engagements que les pays, y compris la France, avaient pris pour la paix et ce qui est à l'origine de la création des Nations Unies et de la charte qui a été rédigée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, la France refuse de ratifier le traité d'interdiction des armes nucléaires et elle est engagée, si on peut dire, dans un processus à l'heure actuelle de modernisation de ses armes nucléaires et elle a comme objectif, depuis quelques temps, de doubler le montant des crédits pour moderniser sa flotte. Et si on peut dire, on peut quand même rappeler, puisqu'on est encore la Journée internationale pour la paix, que la France est le troisième pays en ce qui concerne le commerce des armes. Et là, on est en plein dans le sujet. Et j'aimerais rappeler quand même quelques chiffres. Un missile nucléaire, c'est l'équivalent de 70 écoles. Un sous-marin nucléaire, c'est l'équivalent de la construction de 10 lycées. Un avion Rafale, c'est un hôpital régional. Et on sait qu'à l'heure actuelle, dans le domaine de la santé... comment ? Oui, d'accord, mais j'ai tendance à parler beaucoup avec les mains. Donc voilà ce que l'on peut dire en ce qui concerne Femmes Solidaires et la paix.
Oui, alors pour répondre à votre première question, les femmes sont doublement pénalisées en temps de conflit, en temps de guerre, et quelquefois même dans des pays qui ne paraissent pas en conflit, comme en France. Voilà, les pénalités sont toujours plus grandes pour les femmes. Voilà. Donc, ça n'a pas la même signification, la paix pour les hommes et pour les femmes.
Alors, quelles sont les actions que vous engagez durant l'année? Comment vous rencontrez? Quels rendez-vous?
Alors, nos actions, c'est des actions, d'une part, de prévention, d'éducation. On a un agrément éducation nationale, donc nous intervenons dans les collèges et lycées, bientôt dans les écoles primaires, sur la question de la prise de conscience du sexisme. Et nous faisons des apparitions publiques aussi à l'occasion de deux grandes dates internationales reconnues par l'ONU, le 8 mars, qui est la journée internationale pour le droit des femmes, le droit et l'égalité des femmes, et le 25 novembre, qui va être bientôt, qui est la journée internationale pour l'abolition des violences faites aux femmes. Donc, localement, à ces deux occasions, Femmes Solidaires intervient, en particulier en projetant un cinéma et en ouvrant une discussion à la suite d'un film choisi en adéquation avec ces deux journées. Donc, un pôle préventif, un pôle d'information, et puis un pôle également d'accompagnement, d'accueil des femmes victimes de violences. Voilà, donc ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que dans notre partie est du département, la violence faite aux femmes est très importante et que non seulement il s'agit de les accompagner pour les dépôts de plaintes, mais aussi trouver des hébergements en attendant des solutions pour elles. Et donc ça, c'est un de nos secteurs très, très important. J'oublie quelque chose?
Oui, Annick voudrait parler de ce que vous faites à l'international, en effet.
Alors, on est universaliste, donc à l'international, notamment en Éthiopie, il y a une action Kimbi Dale, qui est une action nationale, mais qu'on a repris pour notre comité local. Donc, Femmes Solidaires accompagne les femmes Afar en Éthiopie et dans la lutte contre les violences, notamment contre l'excision, contre l'infibulation et contre les mariages forcés. Et à cette occasion, Femmes Solidaires a financé un internat pour que les filles puissent aller à l'école, faire des études notamment. Et elle accompagne aussi des femmes Afar dans l'alphabétisation, pour aussi le maraîchage et pour la création d'artisanat. Et on est intervenu aussi, puisqu'on a fait partie, comme le disait tout à l'heure Christine, de mission en Palestine. On intervient dans le village d'Hébron, notamment pour la création d'une bibliothèque, et puis à Sabastia pour aider au maraîchage aussi des femmes.
C'est-à-dire pour que les femmes acquièrent leur autonomie.
Voilà. Oui. Voilà. Et je conclurai en disant une phrase de la présidente nationale de Femmes Solidaires. Lorsque les droits des femmes progressent dans un pays, cela encourage les autres femmes du monde entier à continuer la lutte.
Merci beaucoup.
C2L Radio.
Alors, il y a une chose que je n'avais pas calculée, c'est que je pensais qu'on était là jusqu'à au moins 8h15 et on me dit qu'on n'a plus que 10 minutes. Non, c'était très bien. Je pensais qu'on avait plus long. Donc, j'avais un autre intervenant, un témoignage en fait. Je voudrais qu'Alphonse Do nous rejoigne. Et après, on finira en musique et en poésie avec Aurélie Plot et Étienne Geoffroy. Alors, je peux continuer, monsieur Weber? C'est bon? Voilà, je vous présente Alphonse Do. Alphonse Do est restaurateur à Château Renard. Approche-toi là. Voilà. Il est restaurateur à Château Renard. C'est une personne qui milite énormément pour le Gâtinais, la reconnaissance du Gâtinais, pour reconnaître le dynamisme de ce territoire. À plein de niveaux différents. Il est entre autres conseiller communautaire et élu à Château-Renard. Moi, j'ai voulu, Alphonse, que tu viennes donner un témoignage que j'ai trouvé poignant quand tu l'as, quand tu t'es exprimé il y a quelque temps à Courtenay face à des enfants. Tu es un enfant de la guerre, Alphonse, de la guerre au Vietnam, et tu nous as expliqué ce que représentait pour toi d'arriver jeune adolescent dans un état de droit et de paix.
Oui. Alors, bonsoir à tous. Effectivement, donc moi, je suis arrivé donc en France à l'âge de 9 ans, sans parler un mot de français, suite donc à ce qui se passait souvent dans des pays de guerre. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on vous a dit, tu prends l'avion et tu t'en vas. Donc, j'ai débarqué à Paris, puis après, donc, à Marseille, parce qu'on avait de la famille dans Marseille. Et jusqu'à 9 ans, je marchais pieds nus chez moi. Donc, j'étais libre. Et je suis arrivé ici. Je ne savais pas ce que c'était que des chaussures. Donc, très grand choc donc, émotionnel. Voilà. Donc, avec des avions, enfin, un peu tout.
Tu avais vécu sous les bombes, tu
Alors,
disais.
Moi, je suis un enfant de la guerre. Hein, c'est exact. Moi, je suis né donc sous les bombes. C'est-à-dire que quand les autres entendaient les cloches, moi, j'entendais les canons. Voilà, donc c'est un peu la différence, quoi. Quand vous êtes enfant, vous ne savez pas trop ce qui se passe, en fait. Vous entendez des bruits. Par contre, effectivement, le monde dans lequel je vivais, c'était plutôt du vert. Ça veut dire que tout était kaki, tout était triste, sauf les marchés. Parce que nous, on avait souvent marché donc, de Cholong, qui est le marché donc, de Saigon. Et on voyait du vert partout, quoi. Alors, moi, je suis fils de militaire. Alors, pour vous expliquer, donc, mon père était ce qu'on appelle un seigneur de guerre dans l'ancien temps. Donc, il était commandant d'armée et il s'occupait donc de la garde rapprochée de la présidence donc, du pays. Quoi. Donc, il avait donc effectivement un véhicule donc, de fonction. C'était une Jeep avec une tourelle, donc avec des gardes derrière, le chauffeur et lui. Et moi, mon horizon, c'était quand il rentrait manger le midi, il sortait un gros magnum, donc Python 357 pour ceux qui connaissent, sur la table, et on déjeunait. Alors, on n'avait pas de table comme ça chez nous, on avait des tables basses comme ça. Donc forcément, pour un gamin donc, de 5-6 ans, ben, c'était assez impressionnant. Donc pour moi, la paix, ça a une saveur particulière. Et tous les matins, donc, quand je me lève, et que j'ai un petit chien, donc, et que je sors dans mon petit chien, donc, dans le jardin de Mételen, donc à côté de chez moi, eh ben, j'apprécie la paix, j'apprécie le calme, j'apprécie la nature, j'apprécie le soleil, j'apprécie tout ce qui se passe en fait. Voilà.
Tu apprécies aussi d'avoir, d'être allé à l'école.
Ah oui, alors ça c'est alors.
De l'État français.
Je rejoins donc Jean-Louis, qui pour moi donc est une référence en termes de savoir donc républicain, et donc il m'a déjà encore éclairé il n'y a pas si longtemps. Sur ce que c'était que la République, vu par la lorgnette donc, du général de Gaulle, qui à l'époque n'était pas républicain, et comme quoi donc, tout le monde s'adapte. Et moi, la République m'a apporté tout ce que je suis aujourd'hui. Ça veut dire qu'au-delà donc, de ce que je suis, ben, je n'étais pas grand-chose. J'étais un petit gamin, je ne parlais pas un mot de français. Je savais tout juste dire papa, maman. Forcément, tous les petits français soutiennent ma gueule. Comme ça. Donc on a réglé nos différends donc, à coups de poing, à coups de pied. Et on est devenu les meilleurs amis du monde. Voilà. À l'époque, j'habitais donc dans les quartiers ouvriers de Marseille, pour pas dire les quartiers un petit peu compliqués. Et il y avait toutes les communautés qui étaient là, des Noirs, très peu de Blancs, beaucoup d'Arabes, un petit peu de Chinois, et tout ça, ça cohabitait ensemble. Donc forcément, j'ai appris les arts martiaux très tôt. Forcément. Voilà. Donc entre autres. Mon père m'a dit, tu peux jouer au football, mais par contre, tu seras ceinture noire de judo. OK, mon fils ? Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on est tous devenus des professeurs de judo parce que mon père nous l'a demandé. Et donc, pour parler d'intégration, puisque à cette époque-là, quand vous avez 10 ans, on ne sait pas ce que c'est que l'intégration. L'intégration, elle débute d'abord donc, dans la famille. Et moi, mon père, il n'avait qu'un seul... Je vous rappelle, il est militaire, hein, donc il ne parlait pas beaucoup. Par contre, ses paroles étaient sacrées. Donc, quand il vous disait... Mon fils, tu dois t'intégrer vite, vite et vite. Donc, tu vas apprendre le français vite, vite et vite. Voilà. Et donc, on n'avait pas trop de solutions à ce côté-là. Et il nous a appris la solidarité aussi. Parce que ça, c'est aujourd'hui. Donc, je pense qu'il serait jugé et condamné. La solidarité, c'était quoi ? Nous, on a une grande famille. Et donc, des petits cousins, des petites cousines. Enfin, on était une tripotée. Et quand il y a les mecs qui faisaient l'imbécile, c'est pas compliqué, on montait tous à la maison. Donc on se mettait tous sur le lit, donc comme ça, là, à la queue leu-leu. Il sortait le ceinturon et puis, voilà, il schlaguait tout le monde. On s'est dit, bah, c'est dur quand même. Moi, j'ai rien fait, quoi. Et au final, quand on s'est levé et qu'on a eu le petit cousin ou le petit cousin qui ont fait des bêtises, on leur a dit, bah, écoutez, les gars, maintenant, avant de faire une bêtise, vous venez nous voir surtout. Parce qu'on traîne tous, quoi. Donc là, c'est un petit peu le communisme, un peu difficile pour nous. Parce que les fêtes, mais malheureusement, elles en souffraient beaucoup. Voilà, ça, c'est un petit peu la solidarité militaire.
Alphonse, mais, je vais te couper.
Je suis désolé.
Non, c'est moi qui suis vraiment désolée. Donc, il y a des gens dehors qui attendent. Oui. Et ouais. J'aimerais vraiment qu'on finisse en musique. En plus, on a deux artistes qui ont préparé quelque chose pour nous sur ce thème de la paix. On a Aurélie Plot. Aurélie Plot, elle est de la compagnie « Je est un autre ». Elle propose ici des ateliers de théâtre pour adultes et pour enfants. Et bientôt, vous regardez vos programmes du hangar. Il va y avoir son spectacle qu'on attend depuis longtemps maintenant, qui s'appelle Quartet. Il viendra, ce spectacle. Il viendra. C'est au mois de novembre, je crois, Aurélie.
Bonsoir à tout le monde. Oui, merci de nous accueillir. Oui, Quartet, 18 et 19 novembre.
Voilà, c'est
voilà,
ça.
Voilà, à 20h30 au hangar. Et on sera très heureux de vous y voir.
Et puis alors, tu as ton acolyte, ton complice. Explique-nous alors, qui est Étienne ?
Alors, mon complice, je l'appelle mon Québécois à moi.
Tu nous le prêtes un peu de
ouais,
temps en temps.
Oui, je vous le prête bon. De temps en temps. Oui, Étienne, ça fait partie des artistes qui ont rejoint le collectif de la compagnie. Donc, il travaille avec moi sur le Quartet. C'est lui qui a fait le sound design, n'est-ce pas, de Quartet. Et il est à la régie son également.
Et il est sound designer.
Il est graphiste, il est guitariste, il manie la pédale. Il fait plein de choses, Étienne. En fait, c'est un homme orchestre.
Et voilà. Alors, Étienne a un spectacle interactif. Sonore et visuel qui s'appelle le projet Darwin.
Darwin Live Cinema, oui.
Voilà, et qu'on verra prochainement. Je te donne rendez-vous au Cinéma Vox de Château-Renard
oui.
Au Festivox, ou les deux d'ailleurs.
Voilà.
Hein, c'est ouais. ça. Alors, qu'est-ce que vous nous avez proposé, préparé tous les deux ?
Alors, on a préparé, alors très rapidement, hein. Voilà, très rapidement, mais ça nous a amusé de faire ça parce qu'en fait, le prochain spectacle de la compagnie. C'est un duo en fait entre Étienne et moi autour des Fleurs du Mal de Baudelaire. Voilà, on va commencer la production de ce spectacle en 2022. Et donc là, ce soir, on vous propose évidemment un poème de Charles Baudelaire. J'en suis très heureuse. Alors qu'on a vraiment, voilà, on a bricolé un petit truc ce week-end, dimanche soir tous les deux. C'est assez modeste, mais on avait envie de vous faire entendre la voix de Baudelaire à travers un poème qui est assez peu connu, qui s'appelle Le Calumet de paix, qui est en fait une commande qui a été faite à Baudelaire. C'est la traduction d'une légende amérindienne. Voilà, donc c'est la légende autour du calumet de paix. Orgiche Manito, le maître de la vie, le puissant, descendit dans la verte prairie, dans l'immense prairie aux coteaux montueux. Et là, sur les rochers de la rouge carrière, dominant tout l'espace et baigné de lumière, il se tenait debout, vaste et majestueux.
Alors, il convoqua les peuples innombrables, plus nombreux que ne sont les herbes et les sables. Avec sa main terrible, il rompit un morceau du rocher dont il fit une pipe. Une pipe superbe, puis au bord du ruisseau, dans une énorme gerbe pour s'en faire un tuyau, choisit un long roseau. Pour la bourrer, il prit au saule son écorce. Et lui, le Tout-Puissant, créateur de la force debout, il alluma comme un divin fanal la pipe de la paix. Debout sur la carrière, il fumait, droit, superbe et baigné de lumière. Or, pour les nations, c'était le grand signal. Et lentement montait la divine fumée dans l'air doux du matin, onduleuse, embaumée. Et d'abord, ce ne fut qu'un sillon ténébreux. Puis, la vapeur se fit bleue et plus épaisse, puis blanchie. Et montant et grossissant sans cesse, elle alla se briser au dur plafond des cieux. Des plus lointains sommets des montagnes rocheuses, depuis les lacs du nord aux ondes tapageuses, depuis Tawasenta, le vallon sans pareil, jusqu'à Tuscaloosa, la forêt parfumée, tous virent le signal et l'immense fumée montant paisiblement dans le matin vermeil. Le prophète disait : Voyez-vous cette bande de vapeur qui, semblable à la main qui commande, oscille et se détache en noir sur le soleil ? C'est Gitche Manito, le maître de la vie, qui dit aux quatre coins de l'immense prairie : Je vous convoque tous, guerriers, à mon conseil. Par le chemin des eaux, par la route des plaines, par les quatre côtés d'où soufflent les haleines du vent, tous les guerriers de chaque tribu, tous, comprenant le signal du nuage qui bouge, vinrent docilement à la carrière rouge où Gitche Manito leur donnait rendez-vous. Les guerriers se tenaient sur la verte prairie. Tous, équipés en guerre et la mine aguerrie, bariolés ainsi qu'un feuillage automnal, et la haine qui fait combattre tous les êtres, la haine qui brûlait les yeux de leurs ancêtres, incendiait encore leurs yeux d'un feu fatal. Et les yeux était plein de haine héréditaire. Or, Gitche Manito, le maître de la terre, les considérait tous avec compassion comme un père très bon, ennemi du désordre qui voit ses chers petits batailler et se mordre. Tel Gitche Manito pour toute nation. Il étendit sur eux sa puissante main droite pour subjuguer leur cœur et la nature étroite pour rafraîchir leur fièvre à l'ombre de sa main. Puis il leur dit avec sa voix majestueuse, comparable à la voix d'une eau tumultueuse qui tombe et rend un son monstrueux, surhumain. Ô ma postérité, déplorable et chéri, ô mes fils, écoutez la divine raison. C'est Gitche Manito, le maître de la vie, qui vous parle. Celui qui, dans votre patrie, a mis l'ours, le castor, le renne et le bison. Je vous ai fait la chasse et la pêche facile. Pourquoi donc le chasseur devient-il assassin ? Les marées furent pour moi peuplées de volatiles. Pourquoi n'êtes-vous pas content, fils indocile ? Pourquoi l'homme fait-il la chasse à son voisin ? Je suis vraiment bien las de vos horribles guerres. Vos prières, vos vœux même sont des forfaits. Le péril est pour vous dans vos humeurs contraires et c'est dans l'union qu'est votre force. En frères, vivez donc et sachez vous maintenir en paix. Bientôt, vous recevrez de ma main un prophète qui viendra vous instruire et souffrir avec vous. Sa parole fera de la vie une fête. Mais si vous méprisez sa sagesse parfaite, pauvres enfants maudits, vous disparaîtrez tous. Effacez dans les flots vos couleurs meurtrières. Les roseaux sont nombreux et le roc est épais. Chacun en peut tirer sa pipe. Plus de guerre, plus de sang. Désormais, vivez comme des frères et tous unis fumaient le calumet de paix. Et soudain, tous, jetant leurs armes sur la terre, lavent dans le ruisseau les couleurs de la guerre qui luisaient sur leur front cruel et triomphant. Chacun creuse une pipe et cueille sur la rive un long roseau qu'avec adresse il enjolive. Et l'esprit souriait à ses pauvres enfants. Chacun s'en retourna, l'âme calme et ravie. Et Gitche Manito, le maître de la vie, remonta par la porte entrouverte des cieux. À travers la vapeur splendide du nuage, le Tout-Puissant montait, content de son ouvrage, immense, parfumé, sublime, radieux. Vers la vapeur splendide du nuage, le Tout-Puissant montait, content de son ouvrage, immense, parfumé, sublime, radieux.
D'avoir un petit peu bavouillé sur l'horaire. Encore merci de ton accueil. Manu Menot, le directeur de ce lieu. Et merci de nous offrir ce très beau concert. Merci à tous les intervenants, merci au public. Et puis merci d'avoir eu cette idée folle, monsieur Pascal Weber. À bientôt.
Nous étions entre Loire et Loin sur C2L. Merci de nous avoir écoutés. Cette émission a donc, je vous le rappelle, été enregistrée le 21 septembre, mardi dernier, au Hangar, à Chalette-sur-Loing, à l'occasion de la Journée internationale pour la paix. Sandrine Manteau et ses invités ont fait le show en public pendant plus d'une heure et demie. On remercie toute l'équipe, tous ceux qui sont venus nous donner un coup de main, Patrice, Anita, JP, Marina. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux où vous êtes de plus en plus nombreux à nous aimer, à nous liker, à nous partager, à nous commenter sur Facebook, sur YouTube, où vous retrouvez tout ça en vidéo. C'était Pascal Weber au micro et à la réalisation. Je vous souhaite un bon week-end à l'écoute de ces deux ailes et puis à la semaine prochaine.
Ces deux ailes radio.
Qui c'est qui est très gentil?
Très gentil.
Qui c'est qui est très méchant?
Très méchant.
Économies
déjantées
et qui gaspille son argent,
les méchants.
Qui c'est qui vend des fusils,
les gentils.
Qui c'est qui se retrouve devant,
les méchants.
C'est comme un guignol spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Pour qui t'as de l'antipathie,
les gentils.
Pour qui t'as un gros penchant,
les méchants.
C'est travail, famille, patrie, les gentils. C'est la retraite à 20 ans, les méchants. Samedi,
les gentils.
Ils font ça n'importe quand, les méchants. Ils craveront le cul béni, les gentils.